Bonjour Claire Fourcade.
Bonjour.
Vous êtes l'invitée ce matin de Radio Classique. Bienvenue. Vous êtes médecin en soins palliatifs. Vous êtes présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Le projet de loi sur la fin de vie est présenté ce matin au Conseil des ministres. Et juste avant, en début de semaine, le gouvernement a fait des annonces sur un renforcement des moyens dédiés aux soins palliatifs. Est-ce une façon de montrer que les deux piliers de ce sujet autour de la fin de vie sont traités ?
En tout cas, c'est sûr que c'était une nécessité, ces annonces sur les soins palliatifs, puisque dans le débat qui a eu lieu maintenant depuis 18 mois, il y a un vrai consensus dans tout l'arc politique et pour tout le monde, à savoir qu'il faut développer les soins palliatifs. On a aujourd'hui 500 personnes chaque jour qui meurent sans avoir eu accès aux soins dont elles auraient besoin. 500 personnes tous les jours en France qui n'ont pas eu accès, alors que la loi garantit cet accès aux soins palliatifs depuis 1999. Et donc, il est temps de s'y mettre. Et donc, ces annonces étaient absolument importantes. Sur la question de l'euthanasie ou du suicide assisté qui vient aussi dans le débat, c'est une question à notre avis différente, c'est une question beaucoup plus clivante, une question plus difficile et qui répond à d'autres demandes.
1,1 milliard d'euros, voilà pour les moyens annoncés. Alors, c'est évidemment sur plusieurs années, c'est une montée en charge progressive. J'imagine que c'est à la fois beaucoup, ce chiffre paraît important, et sans doute trop peu pour aller vers ce qu'il faut quand vous détaillez ces chiffres à l'instant, 500 patients par jour.
Et puis on voit, quand on a écouté Guillaume Tabar avant, que la situation économique nous rend en tout cas prudents, mais en tout cas voilà, ces annonces étaient importantes, elles vont dans le bon sens pour nous, hein. On a vraiment cette nécessité de développer les soins palliatifs. Mais
que fait-on de ces sommes concrètement ? Est-ce qu'on sait vers quoi elles vont être fléchées ?
Alors, vers beaucoup de choses, et à la fois pour accompagner davantage de patients à domicile. Beaucoup de patients aimeraient pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible et ont besoin pour ça que les soins puissent venir vers eux quand eux ne peuvent pas se déplacer. À la fois aussi pour créer dans les départements qui n'en ont pas des unités de soins palliatifs, qui sont les services qui accueillent les situations les plus complexes, les plus difficiles. Or, il y a encore 20 départements en France où ces services n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soins palliatifs, mais ça veut dire que les patients qui sont dans les situations les plus lourdes, pour leurs proches, ils sont obligés soit de partir loin, soit d'être dans des services qui sont moins adaptés. Donc il y a la nécessité de compenser cette offre qui manque. Il y a la nécessité de mieux former les médecins en particulier et aussi les infirmiers, tous les soignants, à cette culture des soins palliatifs, c'est-à-dire savoir soulager, soit soulager quoi qu'il en coûte, mettre tous les moyens en œuvre pour soulager, pour qu'on n'entende plus ce qu'on entend trop souvent de patients qui nous disent qu'ils n'ont pas été accompagnés comme ils l'auraient dû.
Est-ce que ça a du sens de garantir cet accès aux soins palliatifs ? Vous parliez de cette loi de 99, ça fait donc un quart de siècle, c'est un peu comme le droit au logement. C'est pas parce qu'on le dit dans la loi que ça arrive concrètement.
Alors, j'ai coutume de dire toujours qu'on soigne pas ni avec des annonces ni avec des lois, on soigne avec des gens et avec de l'argent. Et c'est ça dont on va avoir besoin. La question des gens est en particulier un sujet de tension important.
C'est un domaine qui attire des jeunes soignants, des futurs soignants, les soins palliatifs.
C'est un domaine qui attire si on leur donne l'occasion de faire cette expérience. Le service où je travaille, on a deux postes d'internes, et donc tous les semestres, on accueille deux internes. Et ces internes, toujours, quand ils terminent leur stage, ils ont envie de rester, de continuer une pratique, au moins à temps partiel, une pratique d'équipe, une pratique qui a du sens, une pratique qui est vraiment une pratique de soins pour laquelle on a choisi les métiers du soin qu'on a choisi.
Catherine Vautrin, qui est la ministre du Travail et de la Santé, vous renvoie la balle en disant « j'entends ce que vous dites sur on manque de personnes, mais vous avez aussi attendu ou tardé à structurer une filière de spécialité des soins palliatifs ».
J'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer Catherine Vautrin, mais on doit se rencontrer la semaine prochaine, enfin. J'ai été surprise par cette phrase, parce qu'une filière universitaire, ça se crée pas, c'est pas une association qui crée une filière universitaire, c'est le ministère. Et donc, ça fait plus de 20 ans qu'on réclame cette filière universitaire, et je suis heureuse de voir qu'elle va peut-être enfin voir le jour, mais à horizon de 10 ans. Donc, on n'aura pas des médecins tout de suite spécialisés et enseignant les soins palliatifs.
Claire Fourcade, quelle différence entre les soins palliatifs et les soins d'accompagnement qui sont évoqués par le gouvernement ?
Je ne sais pas. En tout cas, je crois que l'idée du gouvernement...
En gros, c'est une approche plus globale et plus précoce.
Alors, les soins palliatifs, la définition internationale des soins palliatifs, c'est une approche globale, c'est une approche holistique des patients. La souffrance n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique, sociale, et c'est comment on se met ensemble pour prendre en charge la souffrance des patients. Peut-être ce que le gouvernement voulait signifier, c'est l'idée aussi qu'on peut intervenir de façon précoce. Alors, il n'y a pas forcément besoin pour ça de changer, non, mais peut-être que parfois, le mot de soins palliatifs est encore très associé à la fin de vie.
Oui, j'allais vous dire, il faut rappeler que les soins palliatifs, ça n'est pas synonyme de mouroir lent et inéluctable.
Absolument, c'est une médecine qui accompagne la vie avec une maladie grave, c'est une médecine qui accompagne la vie à l'ombre de la mort, mais on peut rester longtemps avec une maladie qu'on ne sait pas guérir, mais qui ne fait pas mourir dans l'immédiat, et on accompagne ces patients tout le long de la maladie pour les accompagner dans leur choix. Le patient qui a pris la parole tout à l'heure avec une maladie de Charcot.
Dans le journal de 8h de Radio
Voilà,
Classique.
Ces patients peuvent être accompagnés tout le long de la maladie pour respecter leur choix, pouvoir parler de ce qui les inquiète, pouvoir parler de ce qui leur fait peur. C'est notre métier au quotidien.
Le gouvernement parle aussi des soins palliatifs pédiatrique. Quelle est la situation chez les enfants? Quel est le besoin?
Actuellement, c'est seulement 30% des enfants qui auraient besoin d'un accompagnement en soins palliatifs qui sont accompagnés. Il n'y a aucun service spécialisé pour accueillir ces enfants. Et donc là, il y a une vraie nécessité aussi d'accompagner ces enfants et leurs parents dans ces moments qui sont particulièrement difficiles.
Une autre nouveauté que créerait cette loi, les maisons d'accompagnement pour des personnes qui ne souhaitent plus vivre chez elles, par exemple parce qu'elles ont de jeunes enfants et qu'elles sont dans un processus de maladie extrêmement compliqué. Qu'en dites-vous de ces maisons d'accompagnement?
C'est un très beau projet, un projet nécessaire. C'est une pièce qui manque, on voit très bien dans nos services, dans le service où je travaille la semaine dernière, sur 12 patients, on en avait 5 pour lesquels on aurait eu besoin d'une structure de ce type, c'est-à-dire des patients qui soit sont isolés et donc ne peuvent pas rentrer chez eux, soit dont la famille n'est pas en situation de pouvoir les accueillir et qui n'ont pourtant pas besoin d'un service spécialisé. Et donc ces lieux intermédiaires qui ressemblent plus au domicile mais qui permettent en même temps un accueil médicalisé vont être des lieux importants pour l'accompagnement des patients.
Claire Fourcade, vous êtes la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Vous avez mené une enquête auprès de 2300 acteurs du soin palliatif. Il y a certains de vos adhérents et d'autres non. Assez logiquement, la majorité d'entre eux se disent méfiants et inquiets avec cette nouvelle loi.
Absolument. On avait besoin de savoir, après 2 années de débat, de réinterroger l'ensemble des acteurs de soins palliatifs en France. Donc, on a envoyé cette enquête à toutes les équipes françaises de soins palliatifs.
Vous l'avez révélé aujourd'hui, aujourd'hui
voilà.
Même.
On a eu 2300 réponses, ce qui est très important, qui montre à la fois l'engagement des acteurs et puis aussi leur inquiétude. De façon massive, ils nous disent leur inquiétude vis-à-vis de ce projet de loi qui va changer de façon très importante la façon dont on écoute la demande de mort. La demande de mort est quelque chose qui arrive dans le quotidien, beaucoup moins fréquemment qu'on le croit, mais qui arrive. C'est notre métier d'écouter ça, de demander à chaque patient qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous me parlez de mourir alors que vous n'en avez pas parlé hier, qu'est-ce qui s'est passé. Nous écoutons cette demande et on voit que le projet de loi va changer la façon d'écouter cette demande. Ça suscite une grande inquiétude chez les acteurs de soins palliatifs sur la qualité de la relation de soins. C'est pas une inquiétude pour les soignants, c'est une inquiétude pour la façon dont on peut écouter les patients et dont on peut ensuite les accompagner.
On note aussi que plus d'un sur trois parmi ceux qui ont répondu à votre enquête serait défavorable à ce que quelqu'un vienne pratiquer l'aide à mourir dans son établissement. Plus de 2 sur 3 seraient en complet désaccord avec l'idée de préparer le produit létal et bien sûr de l'administrer. Est-ce qu'on va vers un recours massif à la clause de conscience ?
Oui, de façon, c'est certain.
Elle est prévue par le texte.
Elle est prévue par le texte, mais ce qu'on voit, c'est que cette clause de conscience ne suffit pas à rassurer, puisqu'il y a aussi 22% des médecins qui disent qu'ils envisagent de quitter leur poste et 17% des infirmiers. Donc il y a la crainte de démission aussi importante, parce qu'en fait, la clause de conscience protège les soignants. Or, la promesse qu'on passe avec nos patients, c'est on sera là jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, pour vous soulager. On ne vous lâchera pas. Et la clause de conscience nous permet à nous, soignants, de partir, mais on ne veut pas partir. Si on choisit cette médecine-là très particulière, on fait face à la mort, quand le président nous disait cette loi est pour faire face à la mort. Nous faisons face à la mort au quotidien, c'est notre métier, c'est un métier difficile et c'est cette promesse tenue d'être là jusqu'au bout pour soulager qui lui donne du sens. Si on doit s'en aller à la fin, est-ce que c'est bien raisonnable de prendre encore le risque de s'affronter au quotidien à la mort? Et donc on voit les soignants qui très nombreux, nous disent qu'ils envisagent de quitter leur poste. En ce moment, le système de santé est dans un état très compliqué. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre une seule infirmière ou un seul médecin quand déjà il en manque tant?
Claire Fourcade, vous êtes évidemment favorable aux soins palliatifs, c'est votre métier. Est-ce que vous acceptez aussi l'idée que dans une partie de la société, cette question de l'aide à mourir, comme elle est écrite dans ce projet de loi, peut être un souhait exprimé?
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la demande d'aide à mourir n'appelle aucun jugement et elle doit être entendue absolument. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. La question, c'est comme société, quelle réponse on souhaite y apporter? Badinter, dans une audition pour évaluer la loi Leonetti en 2008, avait dit « L'État a-t-il le droit et le pouvoir de dire « Puisque tu veux mourir, je vais te tuer ». Et je trouve que ça résume très bien le débat auquel il faut qu'on réponde collectivement et démocratiquement. Mais nous, ce qu'on demande surtout, c'est que les soignants puissent continuer d'écouter cette demande de mort et de l'accompagner.
Le gouvernement promet que toute personne qui demandera une aide à mourir se verra d'abord proposer des soins palliatifs. Que pensez-vous de cette sorte de parcours ?
Alors, je pense que cette promesse va être difficile à tenir, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est actuellement seulement 50% des patients qui en auraient besoin qui ont accès aux soins palliatifs. Donc, je ne sais pas comment matériellement on va rendre cette promesse possible. Et puis, je crois aussi que c'est pas seulement. Il faut continuer d'écouter, d'accompagner, de proposer et que les patients aient à disposition les soins dont ils ont besoin. Mais je crois que la question qui nous est posée collectivement, c'est aussi. Quelle société on veut? Comment on veut accompagner collectivement les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables?
Le président de la République a mis plus de temps que prévu pour faire aboutir ce texte. Ça aurait pu être lors de son premier quinquennat. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a pris le temps nécessaire? Est-ce que le débat a commencé à avoir lieu?
Oui, ce débat a commencé à avoir lieu depuis maintenant presque deux ans, hein, avec la Convention citoyenne, enfin depuis les dernières élections. Et je trouve que ce débat a permis de donner la parole vraiment à des gens très différents. Enfin, je trouve que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en sera de l'étape parlementaire, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un vrai débat. Et pour les Français que ça intéresse, ils ont eu la possibilité d'entendre des points de vue et surtout, je trouve, de comprendre la complexité du sujet. Mmh. Ce n'est pas seulement une question de progrès, de liberté, de dignité. C'est un sujet complexe. Nous, on vit pas en noir et blanc, on vit dans 50 nuances de gris dans notre quotidien de l'accompagnement. Et il me semble que le débat, quand même, rend justice à cette complexité et c'est une bonne chose.
Le terme même d'aide à mourir, donc ce terme qui est dans la loi, fait débat. Pour vous, aider à mourir, c'est aussi une définition des soins palliatifs.
Aider à mourir, c'est mon métier. Ça fait 25 ans que je fais ça. Et j'ai été très surprise dans le préambule de l'interview du président Macron où il dit... Il faut parler sans ambiguïté et de commencer par effacer tous les mots. C'est important de dire les mots, de dire ce dont il est question. Les pays autour de nous qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté le disent. Et je crois que c'est important de dire ce qu'on fait pour pouvoir après expliquer. Et l'euphémisation qui est proposée me paraît pas propre à faire face à la mort comme le président l'a souhaité.
Claire Forcade, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, notre invitée ce matin sur Radio Classique. Il est 8h27, la revue de presse dans quelques instants après l'essentiel de l'actualité. Et puis nos esprits libres ce matin, Sophie Obadia, avocate spécialiste en droit pénal, et Marc Lambon, l'écrivain et académicien.